Tu peux créer de l'art en autarcie, mais dans ce cas-là, fais-le par ton propre biais. Si le pouvoir public te paye pour le faire, questionne-toi à minima sur ton rapport à la société civile et ton application dans le projet de société. On a des responsabilités qui ne sont pas celles de dévoyer nos pratiques pour plaire à un public ou pour participer à des projets politiques, mais par contre de dire comment on a envie de transmettre, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, à quels endroits. Nous, on est par exemple entouré de gens qui ont décidé de peu faire partie du système des galeries d'art, d'un système marchand. Par contre, on va voir des artistes qui sont très impliqués sur les projets de résidence mission, sur les résidences en centre d'art, beaucoup plus dans des projets d'éducation artistique et culturelle. Ça, c'est encore aussi parfois un problème, mais il y a plein de systèmes, il y a plein de manières de faire de l'art, et nous, on avait envie de questionner ça et vraiment de réinviter ce qu'on a appelé les publics pendant très longtemps, qu'on appelle encore les publics, et leur dire non, en fait, vous n'êtes pas des publics, vous êtes des gens qui peuvent faire partie de cette communauté artistique. Nous, c'est pour ça qu'on aime à montrer des projets en cours, là où normalement on montre aux gens des projets qui sont terminés.
Donc moi, je m'appelle Aline Caretti et je suis salariée permanente de l'association depuis 2 ans.
Moi, je m'appelle Johanna Rocard et je suis une des membres fondatrices de la collective.
Non, mais quand je dis découragé, c'est juste que c'était dur de terminer, quoi. C'était dur de continuer. Et en même temps, je voulais.
Bah, je sais pas s'il y a eu un déclic. En fait, c'est vraiment une histoire de parcours. On terminait. Moi, j'étais à l'université section art, ainsi que Lise Lorichaume et Ophélie Naissance, qui sont les deux personnes avec qui j'ai monté l'association. Il y avait François Feutry qui lui terminait l'école des beaux-arts. Et on s'est rendu. Je ne sais pas si on s'est rendu compte de quelque chose. Je crois qu'on est sorti d'école et que surtout on était dans une logique où on se retrouvait seul. Là où on avait été entouré par des pairs, par des professeurs, on avait des avis sur nos travaux, on avait un accompagnement pédagogique. D'un coup, on nous forme à ce type de métier qui est compliqué. Donc voilà, on est formé plus ou moins à être artiste. En tout cas, il y a l'envie, on nous a dit que c'était possible. Mais on ne nous a pas vraiment expliqué qu'il y avait. On allait se retrouver sans argent pour produire. On n'a plus d'ateliers, ce qui est le cas, que ce soit à l'université ou à l'école des beaux-arts, il y a des ateliers pour produire de l'art. On n'a pas d'atelier personnel encore, parce qu'il y a vraiment une période de transition. Et puis, en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est ce métier-là, parce qu'on a souvent on nous a un petit peu oublié, ou on a un peu oublié de nous dire que c'était quand même une profession libérale, ce qui induit des choses pas très sexy en termes d'administratif, c'est-à-dire que quand on est artiste, on a ce qu'on appelle une micro-BNC, et c'est rien d'autre qu'une entreprise, en fait, avec des obligations entrepreneuriales, des charges, l'URSSAF. Il y a un organe, on en a entendu parler, ça s'appelle la Maison des artistes, c'est une espèce d'organe fantôme, on ne sait pas trop ce que c'est. Même encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas vraiment ce que c'est, qui est une caisse de cotisation, en fait, et ça, on va le découvrir. Voilà, donc on se retrouve un peu voilà, à ce moment-là où on sort d'études, on a envie d'avoir des pratiques artistiques, on ne sait pas comment faire, et en fait, pense assez naturellement, le réflexe, ça va être de se retourner vers la question du collectif. Comment je recrée un collectif qui n'est plus celui de l'école ? Parce que j'ai besoin d'être tutélé, j'ai besoin d'être soutenu, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de trouver des solutions.
Ouais. Moi, je pense que ce que j'attends... Ce que je pourrais attendre, c'est de la surprise et c'est qu'une rencontre puisse avoir lieu. C'est quelque chose qui est souvent assez inattendu, mais on peut l'attendre malgré tout.
Non, mais on peut attendre beaucoup de choses, mais c'est vrai que bah, en tant qu'artiste, quand on présente son travail et d'une certaine manière on le présente là, bah, on attend forcément quelque chose du public quand on présente son travail.
Ben, je trouve que c'est un moment qui est beaucoup moins conventionnel, je ne sais pas si ça se dit, mais et qui permet du coup d'avoir une relation humain à humain, et que l'artiste, au lieu d'être mis sur un piédestal un peu inaccessible, ça permet d'être au même niveau que les autres et pouvoir parler de sa pratique autrement qu'en présentant sur un petit cartel. Voilà, ça fait un rapport direct entre l'artiste et le public.
C'est bon ou pas, Annel ?
Oui, merci, excuse-moi.
Il faut que tu rajoutes de la sauce.
Je cherchais un...
Est-ce que
excuse-moi.
Ah, Dieu. Ça fait 2004. Ouais. J'avais 14 ans. Donc, si je m'étais découragé, ça aurait été bien avant.
Oui.
Non, mais ce travail-là, que tu fais... que je... non, que je travaille, mais que j'ai quitté l'école et que je suis... Et cette pratique-là, ça fait 11 ans, c'est ce rapport. Si tu veux, avant, j'écrivais.
Par hasard, on tombe sur un article, sur un projet qui s'appelle Soupine Détroit. En fait, c'était un article sur Détroit en général et sur comment cette ville qui était en train de vivre une crise industrielle du secteur automobile était en train de mettre en place des systèmes alternatifs, puisqu'à ce moment-là, vu qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre apocalyptique, les usines se ferment. Il y a des immeubles, par exemple, que tu peux acheter genre pour 1 $. Et donc, il y a des énormes initiatives citoyennes. Il y a vraiment, on voit la société civile qui va se réemparer de la vie alternative et culturelle de Détroit. Et dans ces projets-là, il y avait un projet qui a toujours lieu, parce que l'ancien président de l'asso est allé à Détroit cet été. Il m'a envoyé une affiche de Soupine Détroit. Voilà, donc ça a toujours cours, qui était... un dispositif pour soutenir des initiatives citoyennes allant du potager urbain à la réhabilitation de lieux et pour trouver des financements, puisqu'on est dans un système libéral américain, donc il n'y a pas de ou très peu de pouvoir public qui va financer ce type d'initiative. Ils faisaient des soirées open micro, les citoyens arrivaient avec leurs projets et il y avait une soupe, une tarte et l'argent était mutualisé autour de ça. Voilà, les gens payaient leur repas. On est tombé sur cet article par hasard et d'un coup, ça nous a semblé, réunir quelque chose qui était là en latence aussi parce qu'on était amis, on mangeait ensemble, on aimait bien faire à manger, on buvait ensemble beaucoup évidemment. Et on s'est dit que ce format-là, ça pouvait être la solution. Dans un moment où en France, c'est pas la même nature de crise économique qu'on traverse, mais il y a les prémices de la crise économique. Et la crise du secteur culturel, qui est encore en cours actuellement. Et on se dit, voilà, peut-être, est-ce qu'on peut faire du microfinancement à échelle très locale, à très très petite échelle, justement. C'est aussi le moment où on a commencé à dire que le mécénat d'entreprise était un peu la solution pour le milieu de l'art, en disant que l'État n'avait plus d'argent, mais que les entreprises, il y avait tout le système de défiscalisation qui se mettait en place. Et on propose aux entreprises d'investir leurs impôts là où ils ont envie. Et tout le monde disait, mais allez voir les entreprises. On se disait, mais pourquoi dans ce cas-là, l'argent privé doit seulement venir de sources d'entreprises comme ça, de sommes très importantes? Est-ce qu'on ne peut pas reconvoquer la société civile à d'autres échelles financières minimes, mais qui est en fait un prétexte pour réinvestir une communauté artistique beaucoup plus large que seulement les artistes, les acteurs professionnels, et comment on pose la question de l'art qui est un bien commun, en fait, et comment on prend soin de ça ensemble. Qu'on est arrivé à se poser cette question-là, et puis on a regardé du côté de plein d'initiatives, et pas du tout dans l'art, en fait. On est allé regarder du côté des tontines africaines, qui est vraiment un système de mutualisation qui est très lié à la diaspora africaine, c'est surtout à Paris, c'est surtout des femmes, c'est des groupes de mutualisation financière. Il y en a qui vont être à 10 euros par mois, ou 50, ou 200, il y a différentes échelles. Et voilà, ces femmes se réunissent et chaque mois, elles décident de soutenir un des projets d'une des porteuses. Et ça aide, entre autres, beaucoup à réhabiliter des villages en Afrique. Et d'un coup, on se dit, ce système, il est très simple, en fait. C'est juste des gens qui se mettent ensemble, qui mutualisent de l'argent, puis on décide qu'une fois par mois, c'est un des projets qui est soutenu.
La mer a mauvais goût, selon toi ? T'aimes pas te baigner dedans ?
Si, j'aime bien, mais j'aime pas ce goût qu'elle a.
J'aime pas trop boire la tasse.
Et toi, tu fais quoi en ce moment ?
Moi, je suis
Alors, du coup, la dîner, en quelques mots, c'est déjà des gens qui se réunissent autour d'une table pour manger un repas. Le concept, c'est que les gens doivent réserver à l'avance. Ils savent que le repas va leur coûter 13 euros. Il y a 3 euros qui nous permettent à nous de faire le repas et 10 euros qui vont dans une cagnotte pour atteindre 300 euros, donc en général 30 dîners, qui permettent ensuite de soutenir un projet artistique. Il y a ensuite 3 artistes, depuis les 2-3 dernières années, répondent en général à un appel à projet, mais il n'y a pas une sélection vraiment sur la question esthétique, mais plus sur des questions de est-ce que la somme des 300 euros pour laquelle ils prétendent vient soutenir le projet à une échelle un peu raisonnable. Si c'est des projets de 10 000 euros, 300 euros, ça vient un peu se perdre. Donc l'idée, c'est quand même que ce soit des projets qui ont une valeur de 1 000 euros ou 2 000 euros au maximum pour que ça puisse aussi avoir une conséquence en fait, pour les dîners dans leur compréhension du projet aussi. Puis, du coup, les artistes présentent de 3 façons différentes leur travail. Il y a une première présentation où c'est de façon graphique un peu, où il y a un espace dans lequel ils peuvent présenter des maquettes, des essais, des ébauches, des esquisses. Ça reste assez simple, on ne leur demande jamais vraiment de faire un portfolio ou de nous présenter un CV. Vraiment, l'enjeu, c'est de présenter le projet en particulier, qui est un projet en cours, qui n'est pas réalisé encore et qui a besoin de ce soutien pour justement aboutir. Donc il y a vraiment cette question aussi d'être dans un moment de création ou de recherche qui est pas encore terminé. Et du coup, il y a cet espace-là, il y a un moment où, à l'entrée, au plat et au dessert, les artistes présentent à haute voix, devant les 30 dîners qui sont à table, le projet. Donc ils le disent en quelques lignes, en 5 minutes, ils présentent un peu leur initiative. Et l'idée, c'est aussi que les gens puissent les repérer, parce que mine de rien, de rencontrer 30 personnes pendant un repas, ça prend quand même un certain temps. Et puis ensuite, ils mangent à table avec les gens. Et donc il y a 3 grandes tablées de 10 personnes à chaque fois. Et encore une fois, entre l'entrée, le plat et le dessert, les artistes tournent d'une table à une autre. Donc c'est, en fait, je pense que là, il y avait un enjeu de trouver des façons différentes de présenter ces projets-là et d'être dans un rapport assez simple et convivial aussi à la rencontre entre des gens en fait et d'autres gens. C'est juste que leur statut peut être un peu différent. Il y a ces personnes qui viennent découvrir une pratique, qui viennent souvent par la curiosité de découvrir non seulement un lieu, parce que le lieu est souvent inconnu. Nous, une spécificité aussi de notre collectif, c'est qu'on n'a pas de lieu, on est plutôt nomade. Donc on vient à chaque fois s'insérer dans des lieux différents. Et la dîner, par exemple, on a été dans des ateliers d'artistes ou dans des centres d'art, dans des magasins de, comment on appelle ça, des brocantes, voilà. Donc c'est l'idée aussi d'investir des lieux, d'être dans un rapport de découverte à plein de niveaux différents. La nourriture aussi est un vrai point de découverte. On met un point d'honneur à tester des recettes aussi un peu cool, parce que c'est pas parce que les gens payent 3 euros, que du coup le repas sera à la valeur de 3 euros. On essaie en général de mettre les petits plats dans les grands. Et voilà, donc les artistes entrent en conversation en fait avec les dîners. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'au final, pendant le repas, on parle beaucoup d'art et des projets d'artistes, mais on parle aussi de la vie quotidienne, de qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances, ou qu'est-ce que ça veut dire d'être artiste, et donc comment tu gagnes ta vie. Par exemple, aujourd'hui, Anaëlle Chadli disait que la plupart de ses œuvres d'art sont financées par le RSA. C'est aussi une vérité qui existe en fait pendant la dînée et qui n'existe pas forcément quand on va voir une expo dans un FRAC ou dans un centre d'art. En fait. Donc c'est aussi pour remettre les choses à une échelle autre et que les gens aient un accès direct à l'artiste. Là où souvent, dans ces espaces dédiés à l'art, l'artiste est absent et on ne sait pas non plus comment il a produit son œuvre, pourquoi. Et donc toutes ces questions-là peuvent émerger pendant la dînée.
Yes, it is. Ok, c'est juste pour savoir. Là, il y a toute la coriandre.
Ouais.
Donc, je peux te prendre la menthe en fait. Tu l'as lavée?
Ouais.
Ok. Je vais l'amener dehors. La menthe, c'est pas pour le plat.
Ok. Il y en a un
autre. C'est la coriandre.
Bol, là, t'as vu?
Est-ce que
là?
Ouais, mais en fait, j'en ai 6.
D'accord.
Mais c'est que du coup, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est pour la mettre. Peut-être pour la noyer, tu vois, dans les grands bols. Ça
réduit tout. Là, c'est le fait d'avoir rincé, tu vois.
Ouais, ça peut rincer un peu. La menthe, c'est pour ce soir en fait,
c'est pour faire une eau aromatisée.
Ah oui, ok, très bien, super. Et il y avait du basilic qui restait, et on s'est dit qu'on pourrait aussi l'utiliser pour faire une eau, vu qu'il en restait pas mal et qu'il est très fort.
Ça pourrait être bon, bien. Ça.
Bonjour, Anaëlle Chadli. Donc, je vis en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, et je me situe quelque part entre la poésie et les arts visuels.
Est-ce qu'il y a
vous, Moi, je ne connaissais pas... Enfin, je connaissais la dîner, mais j'avais aucun lien direct avec. J'ai un ami artiste qui avait présenté il y a quelques années. Et j'ai toujours été curieux de cette... parce que je pense aussi que c'est un espace à la fois politique et d'existence des artistes qui est questionné, qui est très important. Bah, la question de la place de l'artiste est souvent discutée de façon très abstraite. Finalement, comment est-ce qu'il vit, comment est-ce qu'il peut exister même dans cet espace commun. Mais rarement poser la question directement et échanger autour de ça. Et ça, c'est vrai que la collective, me semble-t-il, fait ce travail-là. En tout cas, de tout ce que j'ai pu suivre.
En version théâtre, performatif, ça n'a rien à voir. Enfin, du coup, par rapport à la question du public.
C'est beau, ça. Oh, c'est le tableau duquel je suis partie pour ma maquette. C'est où ? Eh ouais. Bah, tu sais, c'était ça à la base, c'est pour ça que je voulais reconstituer une maquette pour pouvoir reproduire des peintures dans ce genre-là.
Ah, mais
c'est
super rigolo.
On pouvait manger avec des artistes pour 180 euros à peu près la soirée et dans des lieux très chics avec du super vin. Et on s'est dit que c'était vraiment pas ça qu'on voulait faire, donc c'est comme ça qu'on est arrivé au projet de la dîner. En tordant un peu tous ces systèmes-là, en s'inspirant de plein de choses et en se disant qu'on avait envie de tordre le cou aussi, un espèce de stéréotype qui fait que l'art contemporain est un milieu, contrairement par exemple à la musique actuelle ou au spectacle vivant, qui est assez austère. Quand on convoque des collectifs pour réfléchir, ça va être des symposiums, des journées d'études, c'est assez chiant, il faut le dire. Ouais. Il y a des choses passionnantes, mais c'est pas super rigolo, c'est pas très ouvert, il faut être spécialiste ou expert. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait questionner, dire comment on fait aujourd'hui pour réfléchir, parce que nous, on vient aussi du milieu universitaire et de la recherche, comment on continue à poursuivre cette recherche qui nous intéresse sans le truc très chiant de seulement l'académisme, par exemple, universitaire, et en se disant... bah, quand tu vas à un concert, tu passes un bon moment, tu découvres une pratique artistique, et en même temps tu bois des coups et tu vois des gens. Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose, en fait ? Voilà. Donc c'est venu un peu ça, c'est ce qui a donné le projet de la dîner, qui, première édition, va être en 2012, et qui va vraiment nous permettre de développer toute la carte d'identité de l'association à partir de là. Je reviens juste sur la question démocratique, parce que c'était vraiment aussi un des fondements. Nous, il y a un attachement hyper militant et politique, encore plus maintenant à mettre en place ce type d'action. Et ça s'est beaucoup posé par la question du vote, puisque ça a été quelque chose où on nous est tombé dessus assez rapidement en disant « Comment ça, un vote ? C'est la Star Academy pour les artistes pauvres ?» Et ça nous a questionnés, évidemment. Je crois qu'on n'a jamais milité ou on n'a jamais revendiqué que c'était la meilleure des solutions. On aurait aimé pouvoir trouver, peut-être à l'avenir, on trouvera d'autres manières de décision collective, de type de la collégialité, par exemple, ou se mettre d'accord ensemble. Mais on était attaché au fait de revendiquer le vote comme outil démocratique. C'est un vote qui est anonyme. Chacun a une voix, quelle que soit l'expertise. On peut être néophyte ou directeur de centre d'art. En fait, on s'en fiche complètement. On n'est pas obligé de défendre sa position. Il y a quelque chose de très affectif, on va dire, aux gens. Ça peut être aussi, vous avez trouvé la personne sympa, en fait. C'est vraiment remettre la rencontre avec l'artiste à l'endroit de la rencontre humaine, et quelque chose de physique, de sympathie, de connivence humaine. Et donc on a hyper défendu cette prise de position-là, tout en la re-questionnant un petit peu à chaque fois, mais on s'y est attaché parce qu'on trouvait que, un, c'était quand même dommage que les émissions de télécrochet aient pris le monopole du vote, et que actuellement c'est important, je crois, de reposer ces questions de la démocratie. Et même on a encore eu à table hier un grand débat sur la question du vote démocratique, et peut-être c'est pas la meilleure solution, en fait, de voter, mais jusqu'ici c'est l'outil qu'on a, et tant que c'est ça, on était prêt à le défendre. Et puis, je crois qu'il y avait une envie.
Bonjour, alors je m'appelle Hélène Ingan et je suis graphiste. Bah alors, oui, non, parce que moi, en fait, ce que je viens présenter, c'est un projet participatif qui fait participer 30 artistes que je ne rémunère pas. Donc, c'est sûr qu'on est au cœur du sujet. Mais bah, le problème est aussi évoqué par ce biais-là parce qu'en fait, ce genre d'édition autofinancée pour la majorité du projet ne permet pas après de pouvoir rémunérer à juste titre les artistes, mais j'essaye de leur rendre hommage différemment et justement de diffuser au mieux ces projets et de mettre au mieux en valeur leur travail en tout cas.
Et aussi d'être assez honnête et sur ce secteur artistique en disant, bien sûr, il est question d'argent. Donc on va arrêter d'être dégoûté d'en parler parce que les gens, ils ont besoin, d'en vivre, de manger, de payer leur loyer. C'est pas galvauder l'art ou l'abîmer que de parler de ses économies. Il y a quelque chose de très très romantique encore, très 19e siècle. L'artiste doit être au bout du rouleau, ne pas avoir d'argent, et plus il est mal, mieux il va créer. Et si c'est dans un taudis, c'est vraiment super. Donc c'est pas vrai, en fait, comme tout le monde. C'est mieux on va, mieux on crée. On va arrêter de se leurrer avec ça. Et raconter ces économies-là, tord le cou aussi à des stéréotypes de l'art contemporain, c'est du champagne dans des centres d'art, c'est pas vrai, il y a 2% d'élus qui vont fonctionner parce qu'ils l'ont décidé en institution. Ces élus-là, tout le monde n'a pas envie de faire partie de ça, nous on fait des choix aussi, on n'a pas forcément envie d'être ancré dans le milieu très très institutionnel, il y a plein d'autres manières de faire de l'art actuellement, d'en vivre, d'échanger avec les autres. Et on avait vraiment aussi envie de questionner quels sont les autres espaces que l'institution.
Là, sans quoi. Desserts, chacun va présenter.
Oui, ça j'ai vu.
Mais
oui, ouais.
Qu'à chacun de ces moments-là, chaque artiste, il y a 3 tables, chaque artiste va se déplacer.
Oh. Salut, ça va?
On va aller d'une table à l'autre.
D'accord. Vous ici?
Mais oui, c'est pour ça que je t'ai appelé.
Salut.
Bonjour.
Oui, j'ai oublié de te rappeler, je suis désolé.
Non, mais je me suis dit que tu avais pris avec la marchandise.
Pardon, vous êtes en train.
Mais il n'y a pas de souci, c'est bon, là c'est.
Oui.
Vous pouvez parler.
Oui, je viens présenter les fables.
Les
fables.
Cool.
Tu sais, j'en avais parlé il y a quelques mois et puis.
Et puis j'ai oublié. Parce que
bon, ça fait longtemps que j'en ai parlé en même temps.
Cool. Je sais pas si nous on a le droit de voter. En fait, je suis pas sûr.
Ah ouais, ouais.
On va faire du lobbying.
Ouais, c'est sûr. Bon, c'est l'autre artiste qui présente aussi.
Okay.
Désolé, bien, c'est hein. Bien.
Pas rancune.
Non mais, c'est possibilité de faire du lobbying pour les 3 artistes.
Exactement, c'est ce qu'il voulait dire d'ailleurs.
C'est, on s'est rendu compte aussi que c'est un projet qui a beaucoup plu au pouvoir public. Ça a été une très bonne carte d'identité pour nous. Les gens avaient envie de faire des interviews dessus, de faire des articles. Souvent, on avait aussi envie de parler des autres activités de l'asso. Les gens disaient non, la dîner et tout. C'est quelque chose qui fonctionne bien. On est aussi sur, ça c'est des tendances, hein. Le boire et le manger, ça marche à fond. La convivialité, ça marche à fond. La mutualisation économique, ça marche à fond. Donc forcément, il y a une espèce de combo, et tant mieux, on est super content d'avoir surfé sur ces, il y a des, on appelle les tendances positives, hein, une espèce de lobbying qui est pas toujours mauvais, quoi. Mais on a décidé de s'arrêter, voilà, pour cette raison politique qui est que c'est louche si ça plaît autant, et surtout au pouvoir public. Et il y a une question aussi, c'était super de questionner pendant 5 ans quelque chose qui est très très intérieur au milieu de l'art, et puis là entre autres aussi l'arrivée d'Aline, qui n'est pas artiste, mais qui est architecte. L'arrivée de Thomas Delahaye, qui est artiste, mais qui était aussi porteur du projet Galerie 126, qui est aussi musicien. Moi, j'ai une pratique où je travaille beaucoup plus maintenant des questions aussi d'espace public, des questions politiques. On avait clairement envie de s'extraire d'un petit entre-soi qu'on avait créé, même si ce n'est pas des gens qu'on connaît, c'est des gens qui ont des grosses habitudes culturelles. S'asseoir 4 heures à table pour parler d'art, il faut déjà être bien outillé quand même. Et d'un coup, on s'est dit, attention, en fait, on s'est extrait de l'institution pour s'extraire de carcans, s'extraire de murs. Et au final, est-ce qu'on n'est pas en train d'en recréer un autre? Il est peut-être un peu plus sexy parce qu'il est nomade, il est un peu plus glamour parce qu'il n'est pas toujours entre 4 murs blancs. Mais est-ce que ce n'est pas un autre carcan, en fait? Donc, on s'arrête aussi pour garder des forces, pour repartir sur des projets beaucoup plus ouverts et beaucoup plus invitants au plus grand nombre. S'il peut inspirer des gens, ce serait super. S'il y a des gens qui ont envie de le reprendre, en fait, c'est rien d'autre qu'un protocole, c'est une règle du jeu. Dans les dossiers de subvention, dans les présentations du projet, il y a marqué la dîner, c'est 30 personnes à table, 3 projets d'artistes, tant d'euros mutualisés. Donc, c'est un mode d'emploi, en fait. Et ça, tout le monde peut le déployer n'importe où. Ça a été le cas, c'est un projet qu'on a monté aussi en collaboration. Il y a la dîner à Strasbourg avec l'accélérateur de particules. Il y a eu Rouen à Ubi, Ubi à Rouen, qui l'ont monté aussi. Il y a eu Diagonale à Montréal qui l'a repris aussi. Donc nous, on n'est vraiment pas dans une espèce de paternité un peu... c'est ce qu'on appelle le ministère des mystères, de dire c'est à nous et on ne donnera pas ça, ce n'est pas possible. Voilà, donc c'est dans cette idée-là. Et on n'avait pas non plus envie de le transmettre comme une espèce de précieux... Enfin, tu as d'idées précieuses qu'il ne faut absolument pas détourner ou galvauder en disant on va trouver une association qui va le reprendre parfaitement, puis on va bien les former. Donc on se dit, on s'en fout complètement de faire la police de la dîner. Par contre, si ça peut faire des petits, s'il y a des gens qui trouvent qu'il y a un bout qui est bien et qui veulent l'emmener ailleurs... c'est super, nous on est ravis.
Mais il y a de la vie, hein. Depuis qu'on est arrivé là, on voit qu'il y a de la vie.
C'est un ça grouille.
Ouais. Et de partout en fait. Des gens qui vivent là.
Le lieu est super beau. Hein.
Ah ouais, super. C'est la première fois que tu viens aussi ?
Ouais,
moi aussi.
Moi aussi.
Juste les premières fois.
C'est une ruche.
Oui, c'est ça.
Je voulais dire bonjour.
Ça,
c'est beau,
c'est beau.
Ouais.
Mais ça pourrait changer de titre, par exemple.
Ah oui.
Et ça va changer.
Bah ouais. Mais je sais pas, ça serait pas un frein, je sais pas, moi.
Ça va être très compliqué à l'éducation.
Parce que ça fait longtemps que ça existe.
Tu veux du pain ? Bah oui, ça fait 10 ans, en fait.
Arrêtez à 10 ans. Anna, tu veux du pain ?
Bon appétit. Du coup, je m'appelle Carla Bonavent, je suis étudiante aux Beaux-Arts en troisième année. Je suis bénévole à la collective et voilà, j'ai aidé pour tout ce qui est organisation, préparation avant l'événement, pendant l'événement aussi, et après aussi pour tout ce qui est démontage. Alors la collective, elle a intervenu l'année dernière à l'école à l'ESSAB, aux Beaux-Arts de Rennes, pour faire un workshop dans la cafétéria pour réinvestir cet espace qui serait un espace plus de partage et qu'on a un peu mis de côté pour nous permettre de nous rencontrer entre étudiants et donc réfléchir à comment on peut faire un croisement autour d'un lieu, comment on réinvestit un lieu comme ça. Alors moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ce projet-là, c'est le fait de se rencontrer déjà autour d'un moment qui est, entre parenthèses festif, le moment d'un repas, de partage, de rencontrer des gens dans un autre contexte que dans un vernissage. Et puis que ça permet aussi aux artistes d'avoir un contact avec un public et puis même de rencontrer d'autres gens qui sont dans le même milieu que nous ou pas du tout. Alors moi, je ne sais pas encore trop, ça serait un peu des deux justement. C'est ça qui est un peu en train de me travailler, c'est que j'aimerais bien... créer des moments comme ça de collectif et être dans cette organisation-là. Mais après, j'ai aussi ma pratique personnelle que j'aimerais pouvoir continuer. Donc pour moi, ça va ensemble, en fait. Ça sera juste peut-être deux choses différentes que j'essaierai de rassembler en inventant un nouveau métier, je ne sais pas, qui serait entre artiste et créateur de collectif.
Y a Carla et Lisa, qui sont des deux étudiantes de l'ESSAB, qu'on a rencontrées en fait sur un workshop qu'on a fait à l'École européenne supérieure des arts de Bretagne, à Rennes. Et en fait, on a fait un workshop pour travailler la question du collectif au sein de cette école-là. Et c'était un workshop où, au final, c'était ouvert à tous les étudiants, mais il y a eu environ une dizaine d'étudiants qui sont venus, finalement. Et ce qui était assez beau, c'est qu'à la sortie de cette expérience-là, elles nous ont vraiment recontactées, elles ont un peu suivi ce qu'on a fait. Et là, elles ont organisé, pour la rentrée, en fait, un événement pour faire en sorte que les étudiants qui arrivent en première année ou en deuxième année apprennent à se connaître et soient plus dans la rencontre, qu'il y ait des choses qui puissent exister au sein de l'école qui ne sont pas formalisées par les enseignants ou par la direction ou par l'administration et que du coup eux-mêmes s'emparent de projets, de créer un potager, de transformer la cafétéria, de monter des projets ensemble, d'avoir une galerie ou un espace d'expo qui soit en tout cas un espace qu'eux ont défini. Et ce qui était assez chouette, c'est de se dire que de les voir et de les rencontrer justement sur ce projet-là, elles nous invitent aussi à faire un... nous on a appelé ça un speed dating, je ne sais pas comment on va l'appeler finalement, mais un événement en tout cas où, on viendra avec d'autres collectifs et parler de ce qu'on fait et justement leur montrer qu'il y a d'autres initiatives, d'autres façons de faire et que ça peut être chouette en fait à la sortie de l'école d'être ensemble et de se réunir pour des, comme disait Johanna tout à l'heure, pour des raisons artistiques, pour des raisons politiques, pour des raisons juste d'être ensemble parce qu'on est bien et on verra bien ce qu'on fera. Et ce qui est chouette, c'est qu'elles nous disent tout le temps quand on vous revoit, ça nous fait du bien en fait de se dire ok, c'est galère, c'est difficile sur le budget, on n'a pas les réponses qu'on veut, la direction ne nous laisse pas forcément faire ce qu'on avait envie de faire, mais en fait rien que de porter ces initiatives-là ensemble, de réaliser qu'en fait on peut faire ça, qu'on a les épaules, que même nous on apprend tout un tas de choses en faisant ça, c'est un peu le parcours qu'on a eu et comme on disait tout à l'heure, on révolutionne rien, mais par contre pour nos parcours personnels ou pour ce qu'on réussit à développer pour nous-mêmes, ça change vraiment. Enfin, le fait de travailler ensemble et d'être dans un collectif un peu vertueux. Donc, ce que je dirais, c'est peut-être des trucs ensemble, surtout réunissez-vous avec des gens qui vous plaisent en fait, et ça viendra
assez. C'est plein de vent du nord qui mord comme un chien, le porc qui dort, le ventre plein. Ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de verres pleins qui vont à kermesse, comme vont à messe vieilles au matin. C'est plein de jours morts et d'amour gelé. Chez nous y'a que l'été, que les fillettes encore. Ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de finissants qui soignent leurs souvenirs en mouillant de rire leurs poiluchons blancs. C'est plein de débutants qui soignent leurs véroles en caracolant de Prosit en scroll. Ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de coffres d'hommes, c'est plein d'Amsterdam, c'est plein de mains d'hommes au groupe des femmes. C'est plein de mes mères qui ont depuis toujours un sein pour la bière, un sein pour l'amour. Ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'horizons à vous rendre fou, mais l'alcool est blond, le diable est à nous. Les gens sans Espagne ont besoin des deux, on fait des montagnes avec ce qu'on peut. Ça sent la bière.